L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, il est 6h45, nous sommes toujours en direct ici au Salon des maires d'Île-de-France, édition 2023. Voilà, on est sur la dernière trajectoire du salon qui a fait un véritable carton à la fois en audience, puisque beaucoup de monde se sont aussi déplacés. Et on a eu la chance de rencontrer, l'ensemble des élus, quasiment l'ensemble des élus du territoire. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Éric Barbarin. Bonjour Éric.
Bonjour Sylvain.
Directeur général de Next City. Patrimoine et valorisation. Alors, bon, j'adore ces mots, patrimoine et valorisation, valoriser le patrimoine. En quelques mots, c'est une filiale du groupe Next City, bien évidemment. C'est quoi son périmètre d'activité ?
Alors, patrimoine et valorisation a été créé il y a 5 ans. C'est une filiale à 100% du groupe Next City et qui intervient sur la promotion sur existant. Donc, on ne travaille que sur des immeubles existants avec 3 thématiques. La thématique de transformation de bureaux en logement. Bon, thématique plus qu'à l'ordre du jour depuis la crise sanitaire et l'explosion de la vacance locative de l'immobilier tertiaire en Île-de-France. L'intervention sur l'immobilier remarquable, donc, qui est des opérations plus sur du monument historique, sur des secteurs Malraux ou sur des bâtiments qui ont vraiment un caractère remarquable. Et enfin, l'intervention sur tous les bâtiments obsolètes, au sens large. Et donc, l'obsolescence, bah, ça concerne autant des bâtiments qui étaient d'anciens grands magasins que des bâtiments qui étaient des grandes halles, des châteaux, d'anciens bâtiments publics, d'anciennes postes.
Ça peut être des friches aussi.
Des friches industrielles.
C'est de la requalification d'immobilier existant.
Absolument.
Vous changez leur destination ou vous leur rendez une destination plutôt mixte?
Alors, il y a de tout. La plupart du temps, quand un bâtiment est obsolète, on change sa destination. Sinon, on ne serait pas sur une restructuration très lourde, mais on serait plutôt sur une campagne de CAPEX relativement légère. Mais il peut nous arriver d'intervenir également sur des opérations où il n'y a pas de changement de destination. On reste sur la destination initiale, mais on a quand même une campagne de travaux significative.
Est-ce que la surélévation, c'est un sujet aussi dans votre périmètre ?
La surélévation, on en fait souvent quand on fait des opérations de réhabilitation. On en a plusieurs à Paris où on réhabilite, on transforme des garages en logements et on les surélève au passage. Donc souvent des surélévations bois. Après, la surélévation sans intervention sur l'ensemble du bâtiment, donc typiquement des surélévations de copropriété, on en a étudié, c'est des modèles économiques assez fragiles.
Et compliqués.
Et compliqués du fait du droit de la copropriété.
Oui, le vote, l'accord, c'est long.
C'est très long et bon, on mange beaucoup de temps pour y arriver. On a obtenu un permis sur un dossier rue des Petites Écuries, mais on n'a jamais eu l'accord des copropriétaires au bout du bout.
C'est incroyable. Vous avez eu le permis rue des Petites Écuries, c'est vers la rue d'Hauteville, angle rue d'Hauteville, parce que vous êtes confronté aux mêmes règles qui régissent la copropriété. Il vous faut l'accord des copropriétaires.
Absolument.
C'est très clair. Alors, ça vous fait un fonds d'activité très très fourni et extrêmement intéressant, parce que du coup, vous avez certainement, je parle surtout du patrimoine remarquable, des pépites, parfois des lieux magiques.
Oui,
auquel vous redonnez vie quelque part aussi.
Complètement, et j'avoue que c'est ça aussi qui motive les collaborateurs, parce que les collaborateurs adorent travailler sur des objets. Alors, on parle de patrimoine remarquable, que ce soit d'ailleurs des patrimoines du XVIIe siècle, du XVIIIe ou même du XXe. Hein. Il y a le caractère patrimonial au sens noble du terme, n'est pas uniquement la vie de château ou les immeubles Renaissance, mais également ce qui s'est fait au XXe siècle, hein, où il y a du patrimoine très intéressant. Typiquement, on a eu une opération qui a été construite juste avant la Révolution française, en 1780, dans le centre de Reims, qui a été construite par le baron Ponsardin, où c'était le siège de la CCI. Au début, c'était un logement, hein, il y a 200 ans, c'était un seul logement, devenu des bureaux. Et maintenant, on en fait.
Ils avaient de l'espace à l'époque.
Exactement. Hein. Et maintenant, on en fait une trentaine de logements. Voilà,
Ponsardin, une marque de champagne en plus, plutôt pas mal.
Bah, ça abritait d'ailleurs la demeure de la veuve Cliquot après le baron Ponsardin et avant la CCI.
L'orientation, elle est très résidentielle, Éric, dans ce que vous faites. Vous êtes sur du logement, essentiellement?
On est essentiellement sur du logement, mais on fait aussi des projets mixtes,
oui.
Puisqu'on est dans une logique de régénération urbaine et de couture urbaine, et donc on peut faire des opérations avec des socles actifs de commerce, avec un petit immeuble de bureau, à côté une opération de résidence gérée, ce qu'on fait par exemple à Champs-sur-Marne.
Bien sûr.
Donc on est également sur des projets multifonctionnels. L'idée est d'aller sur des changements d'usage, mais des usages qui vont répondre à un écosystème local, de façon à ce qu'ensuite on ait une résilience de ces bâtiments.
Ça demande une technicité très polytechnicienne, au sens étymologique du mot. C'est-à-dire que vous passez... parce que là, vous parliez, par exemple, de patrimoine remarquable avec l'immobilier Malraux, par exemple.
Mm-hmm.
Donc, ce sont des sorties dans lesquelles il y a des assiettes fiscales pour des investisseurs éventuels.
Absolument.
Vous avez du déficit foncier.
Oui.
Vous utilisez des leviers qui permettent aussi d'avoir les moyens, parce qu'il faut que vous ayez les moyens de pouvoir avoir, parce que vous prenez une opération, visualiser la sortie, parce que sans modèle économique, c'est pas viable, on est d'accord là-dessus.
C'est exactement ça. Sur certaines opérations, alors pas toutes, mais sur certaines opérations, le levier fiscal est l'élément déclencheur de la réalisation de l'opération, sinon on ne pourrait pas la faire. Donc, des opérations, monuments historiques, Malraux ou déficit foncier, ce sont les parfaits exemples. Et ça nécessite effectivement un savoir-faire sur la fiscalité, hein, et sur... l'adéquation entre la campagne de travaux et la fiscalité qu'on va mettre en œuvre, et évidemment répondre à la complexité technique de bâtiments existants, de nouvelles normes appliquées.
Pour gérer toutes ces complexités, parce qu'effectivement ça reste très complexe. D'ailleurs, quand on voit l'inflation normative qui vous frappe, parce que c'est quand même assez paradoxal, on a quand même un État centralisateur qui ne cesse de nous faire des injonctions normatives, de vous faire des injonctions normatives, sans forcément proposer des solutions. Voilà, je mets de côté le côté politique, mais il y a une vraie crise du logement dans ce pays. Votre présidente Véronique Bédague ne cesse de le répéter sur tous les plateaux. Elle a alerté en temps et en heure. Est-ce que, dans ce que vous faites, il y a aussi une formidable, j'allais dire, relais sur des bâtiments qui sont obsolètes, qui ont déjà une empreinte foncière existante, dans lequel on a peut-être l'espoir de fluidifier encore plus, alors que le logement résidentiel, vous le savez, est en panne dans notre pays, de trouver des solutions, voilà, pour les Français, pour loger les Français.
Moi, je suis convaincu que la réhabilitation est une des solutions, évidemment, pas la seule,
non,
pour répondre
sûr.
À la crise du logement. On a l'exemple des villes moyennes avec beaucoup de déshérence. Et on a besoin, effectivement, de simplification normative. Sur certains aspects, parce que quand vous travaillez dans la réhabilitation et que vous regardez le panel des normes qui s'appliquent, il y a un côté un petit peu ubuesque parfois de certaines normes et de leur application, avec l'utilisation d'anciens termes comme la CHNRT ou autre. Et il faut vraiment être un hyper spécialiste pour s'y retrouver dans cette espèce de complexité de normes.
Dernière question, on le voit, 2023 est une année en demi-teinte. Il y a encore un peu de stock, mais on sait que l'année 2024 va être compliquée. On parle de plus en plus, les promoteurs, on peut les comprendre, se mettent de plus en plus sur ce qu'on appelle la réhab, la réhabilitation. Ils se disent, d'ailleurs on parle plus de promoteurs stricts au sens du terme, on parle de promoteurs rénovateurs.
Mm-hmm.
Quelque part, c'est un peu ce que vous faites. C'est requalifier des cœurs de ville, requalifier des bâtiments classés parfois, des bâtiments obsolètes. On sait qu'en zone périurbaine, on a des bâtiments de bureaux qui sont vides, impropres à la location. On a fait un chiffre, il y a 2,5 millions de mètres carrés disponibles actuellement. Donc, quand on voit des dizaines de milliers de demandeurs de logements, on se dit, c'est super, on a une opportunité majeure. Est-ce que vous pensez, objectivement, même si moi je ne crois pas un instant à la disparition de la construction neuve, parce que je pense qu'il en faudra toujours, mais est-ce que vous pensez réellement qu'on est sur un axe, un angle qui permettrait de convertir ces volumes, ces millions de mètres carrés, là je parle pas de Paris, de France, avec 2,5 millions de mètres carrés disponibles, mais si on prenait les chiffres au niveau des grandes métropoles, on serait à plusieurs millions justement. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement, je n'allais pas dire une recette, une martingale, mais une vraie opportunité, un vrai levier pour transformer vos métiers, nos métiers? Et enfin, comment et quel sentiment vous avez vis-à-vis des politiques qui pourraient accompagner le mouvement, objectivement?
Objectivement, la réhabilitation est un levier, effectivement, de création de logements.
D'accord.
C'est indéniable. Vous l'avez dit, il y a énormément de mètres carrés disponibles. Après, les maires et les élus locaux sont confrontés à des problématiques locales, évidemment. Et quand on vient leur expliquer qu'on transforme un immeuble de bureau en enlevant la CFE et qu'on leur amène des besoins d'équipement scolaire qui sont financés par personne, c'est une problématique.
Quand on arrive, mais ils sont vides, les immeubles sont vides.
Les immeubles sont vides, mais le propriétaire paye quand même la taxe foncière.
Ça vous arrive ? Non, mais ça arrive, ça. Qu'on ait un élu qui dise « je préfère qu'il reste vide parce que ça me fait de la recette fiscale ». Objectivement.
Ah oui, objectivement, ça arrive très souvent.
C'est sidérant.
Ça arrive très souvent. Il faut se mettre un tout petit peu à leur place.
Oui, hein. Oui.
C'est simplement, il y a des fois, moi j'ai discuté souvent avec des maires de ce sujet, et des fois le temps leur donne raison, finalement. Des fois l'immeuble est vide,
oui.
il résiste, et un jour il est plus vide. Donc ils ont eu raison. C'est vrai. Mais bon. Donc j'ai vu des exemples où le temps a donné raison à des élus qui étaient résilients sur le sujet. Bon, aujourd'hui, on est face à un problème plus massif. Donc je ne sais pas si le temps va donner raison à beaucoup de maires actuellement, avec en plus la transformation des métiers et le télétravail. En tout cas, nous, on a besoin, à mon avis, et les maires ont besoin également d'une prise de conscience nationale sur le fait que ces immeubles de bureaux vides peuvent être transformés en logements, mais que également on a besoin souvent de leviers fiscaux pour que ça fonctionne. C'est qu'il y a des valeurs de foncier, il y a des coûts de travaux et des coûts techniques qui sont très importants. Parfois, il vaut mieux même démolir que reconstruire compte tenu de la complexité.
C'est ce que j'allais
technique.
Vous dire. Quand on a des coûts de travaux qui presque valent autant que le prix du foncier, il faut raser, quoi.
Oui, ou qui sont plus élevés que le prix du neuf.
Oui, que le prix du neuf. Voilà, non, mais absolument. Je veux dire, à un moment, parce que vous êtes d'accord, c'est pas mandat, il n'y a pas de sortie possible quand c'est trop cher.
Absolument.
Voilà. Puis pour vous, à un moment donné, vous dites, je vais arrêter de travailler avec des marges négatives. Quoi, je veux dire.
On ne peut pas travailler avec des marges négatives. Donc on ne travaille pas.
Non, mais, c'est le cas. Est-ce que ça vous est arrivé de monter une OP et puis de vous dire, avant l'OP, en disant, je ne vais pas le faire. Non, ça ne va pas être possible.
Ah bah ça nous arrive tous les jours.
Voilà, vous dites non. Voilà, vous êtes arrivé quasiment au seuil de l'OP, vous avez même les PC, vous avez les autorisations, mais vous ne montez pas les OP parce que vous ne le sentez pas, à cause des matières premières, les coûts des matériaux.
Ça nous arrive tous les jours et ça nous arrive d'ailleurs actuellement la problématique de hausse des coûts de travaux, d'augmentation des taux.
C'est frustrant.
C'est l'échec de notre métier.
Ouais, ça fout les boules.
C'est pour ça qu'on se lève le matin.
Non, parce que c'est vrai que des fois on se décarcasse ou vous décarcassez pour trouver des OP. Vous êtes face à l'OP, là vous dites non, je peux pas le faire parce que
c'est parfois des années de boulot qui sont mis à la poubelle, c'est sûr.
Ah, ça doit être. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Comment vous voyez le marché?
Vous nous souhaitez la baisse des taux.
Oui.
Déjà.
Bon, vous avez vu le HTSF a dit on transige pas sur les 35%, mais on relâche les dérogations. Elles passent de 20 à 30% pour les banques. Bon. Signaux.
C'est toujours ça de prix. Après, aujourd'hui, on est.
Par contre, les taux.
Les taux, de toute façon, ils vont.
Alors, on est déjà à plus de 4%. Il y en a d'autres qui prévoient des taux à 5 d'ici la fin de l'année. Inquiétant, hein.
C'est inquiétant. Alors, après, c'est des taux qu'on a connus dans les années 90.
Mais
le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le stock est trop cher.
Le temps que tout ça s'administre et se relâche, vous pensez quoi? 2, 3 ans? Un peu dur?
Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous répondre sur le temps de remise à niveau. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un stock, on va le vendre en 10 ans. Donc il faudra forcément que les prix de foncier se baissent, puisque aujourd'hui, c'est la seule variable d'ajustement qui reste.
C'est très clair. Merci beaucoup, Éric Barbarin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Nexity, patrimoine et valorisation. Une vue extrêmement posée et pertinente de votre métier, dont on a réellement besoin, parce que je pense que vous êtes sur un métier, sur une forme d'exploitation qui est extrêmement intelligente. Je rappelle que vous travaillez sur de l'immobilier existant, sur la transformation, de la réhabilitation. Donc inutile de dire que vous avez quand même de belles années quand même à travailler avec les élus locaux, avec les partenaires différents. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre périmètre d'activité, justement, juste pour compléter la question, c'est surtout des grandes métropoles où vous intéressez aussi au milieu, aux zones moyennes, des petites villes, des villes moyenne, 100 000 habitants, 150 000 habitants.
Oui, on s'intéresse également aux villes moyennes, oui, bien sûr.
Voilà, parce que là aussi, il y a
des opérations à d'autres villes. On a une opération à Cherbourg.
Très jolie, voilà, très jolie. Voilà, des zones intéressantes. Bon, si on veut en savoir plus, il y a un site internet, Nexity.
Nexity.fr.
Voilà, Nexity.fr, où on a toutes les informations. Merci Eric Barbarin.
Merci Sylvain.
Et voilà, il est déjà 17h et nous allons bientôt clôturer ce salon des maires d'Île-de-France, édition 2023, avec nos Territoria et Radio Immo, bien évidemment. Tous les podcasts sont accessibles sur les plateformes d'écoute, bien évidemment, si vous n'avez pu venir ici au salon. Vous likez, vous partagez, vous commentez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. L'été arrive, prenez soin de vous, profitez-en, et on se revoit bien évidemment sur les programmes de Radio Immo de Territoria. A tout de suite.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BT Immo et Castignac, sur Radio Immo et Radio Territoria.